20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il s'est fait connaître du monde entier à l'occasion d'un fameux mariage royal. Et déjà, à seulement 20 ans, un modèle pour de jeunes Britanniques qui n'ont jamais été aussi nombreux à intégrer les classes de violoncelle. Checo Kanemason s'affirme comme un musicien particulièrement accompli et un jeune homme engagé, décidé à mettre sa notoriété au profit des causes qui lui sont chères, en particulier l'éducation musicale. À l'occasion de la publication de son enregistrement du concerto d'Elgar, avec rien moins que Simon Rattle et l'Orchestre Symphonique de Londres, il est notre invité ce soir dans le journal du classique. Nous retrouverons ensuite, comme tous les mardis, Thierry Ilerito du Figaro, qui nous dressera le portrait d'un autre jeune artiste, le contrebassiste Gérald Poretti. Mais pour commencer, quelques autres nouvelles du monde musical et quelques créations en perspective. Création d'un nouveau spectacle du Palazzetto Bruzan dans le cadre de son délicieux cycle dédié à l'opéra bouffe ce week-end à Aix. Offenbach en wax, ainsi s'intitule ce spectacle qui sera présenté au Théâtre du Jeu de Paume. Un diptyque qui s'annonce haut en couleur, mis en scène par Romain Gilbert, placé sous le signe de l'humour du Second Empire, avec une truculente opérette ou conversation alsacienne en un acte d'Offenbach, Lichen et Fritschen, mélangeant allègrement français et allemand, suivi d'un autre bref ouvrage, Un mari dans la serrure, de Frédéric Wax, un contemporain un peu oublié d'Offenbach, qui lui nous plonge dans l'univers de l'absurde. À l'affiche, Adriana Bignani et Damien Bigourdan, deux chanteurs rompus à ce genre de l'opérette, ainsi que le pianiste Alphonse Semain. Deux représentations sont prévues vendredi à 20h et samedi à 15h au Théâtre du Jeu de Paume, un spectacle qui tournera ensuite et s'installera à Paris au Théâtre Marigny. Ce sera du 28 février au 5 mars. Une création contemporaine à présent, très attendue, cela se passe à l'Auditorium de Dijon, un nouvel opéra de Brice Posey, Les Châtiments, d'après des textes de Kafka, des textes prophétiques quant à l'avenir de l'humanité, dont le compositeur a choisi d'extraire la force comique, décapante et ravageuse. Alors il est question ici d'une génération qui sacrifie ses propres enfants, des transformations d'une famille dont l'un des membres se dissocie de la norme, ou encore de la toute-puissance bureaucratique d'une nation dont les lois monstrueuses ne tolèrent plus la critique. Et il en résulte une partition d'une grande force théâtrale dans la lignée d'un vote sec, dont la vocalité, nous dit le compositeur, est tout entièrement tournée vers la vraisemblance et dont l'orchestre se fait aussi grandiose que chambriste. Une production mise en scène par David Lescaut et dirigée par Emilio Pomarico, avec Alan Boxer, Michael Gniffeux ou encore Emma Posmaud dans la distribution. Cet opéra, Les Châtiments de Brice Posey, c'est à découvrir en création mondiale dès demain et jusqu'au 16 février à Dijon. Petit extrait capté lors de la pré-générale de l'opéra Les Châtiments de Brice Posey, qui nous plonge donc dans l'univers de Kafka, opéra présenté en création mondiale demain soir à l'Auditorium de Dijon, puis les 14 et 16 février.
Laure Maison sur Radio Classique.
C'est donc avec le jeune violoncelliste Checo Kanemason que nous passerons un petit moment à présent, alors qu'il vient de nous livrer au disque sa lecture du concerto pour violoncelle d'Elgar, enregistré avec Simon Rattle et l'Orchestre Symphonique de Londres, un album tout juste sorti chez Decca. Un concerto, celui d'Elgar, avec lequel Checo Kanemason entretient une relation particulière, avec lequel il s'est lui-même révélé à la musique. C'est ce qu'il nous raconte justement ce soir.
Oui, j'étais très jeune lorsque j'ai écouté cette œuvre pour la première fois. J'écoutais particulièrement l'enregistrement de Jacqueline Dupré. J'ai grandi tout en continuant à me passionner pour cette musique. C'est même ce qui m'a poussé à devenir violoncelliste. Comme j'ai grandi avec cette œuvre, c'est toujours un moment très spécial pour moi de la jouer.
C'est vrai que c'est une œuvre très puissante. C'est une œuvre qui a été écrite juste après la Première Guerre mondiale, avec des passages très méditatifs, très contemplatifs, avec énormément de passion. Quel genre d'émotion, justement, ce concerto d'Elgar vous procure chez Checo Kanemason?
Oui, c'est une œuvre très personnelle, très intime même. Toutes les émotions semblent venir de l'intérieur. C'est ce qui la rend si particulière, si touchante. Jouer cette pièce demande de donner beaucoup de soi-même, de chercher profondément en soi. C'est aussi pour cela que j'aime tant la jouer.
Thank you.
Alors c'est avec l'Orchestre Symphonique de Londres, le LSO et Simon Rattle que vous avez enregistré ce concerto pour violoncelle d'Edward Elgar chez Cookham & Mason. Le LSO qui avait justement accompagné Jacqueline Dupré lorsqu'elle avait votre âge, 20 ans, pour ce fameux enregistrement du concerto d'Elgar qui vous a si profondément marqué, qui est à l'origine de votre vocation pour la musique. Lorsque vous avez enregistré ce concerto, vous aviez Jacqueline Dupré dans votre esprit.
Yeah, playing with the LSO.
C'était vraiment extraordinaire de pouvoir jouer cette pièce avec le LSO, qui partage une histoire merveilleuse avec cette œuvre. J'ai beaucoup écouté son enregistrement avec Jacqueline Dupré, mais aussi celui où le LSO est dirigé par Elgar lui-même. C'est un orchestre qui a ainsi une incroyable connaissance de cette œuvre et avec lequel on se sent véritablement libre.
I listen a lot to Jacqueline Dupré's recording and have been very, very inspired by her.
Les gestes francs et directs de Jacqueline Dupré m'ont beaucoup inspiré. D'une certaine façon, j'ai très souvent son attitude en tête. En même temps, je crois que la musique en elle-même me permet de faire mes propres propositions, d'avoir mes propres idées.
C'est vrai que vous avez votre propre personnalité, votre propre interprétation, mais on retrouve chez vous un côté presque physique, un engagement presque physique quand vous jouez qui fait beaucoup penser à celui de Jacqueline Dupré.
I think when you're playing...
Oui, peut-être. C'est vrai que pouvoir jouer de la musique aussi belle est un véritable plaisir. C'est une expérience que j'apprécie particulièrement et je suppose que j'y réponds même physiquement.
Et c'est aussi parce que vous avez quelque part chez Cookham & Mason un rapport assez instinctif, tellement naturel avec cette œuvre.
Growing up.
Oui, je pense que grandir, évoluer en écoutant et en aimant cette musique a eu un impact sur ma manière de l'interpréter. La musique en elle-même est si détaillée et pourtant si directe. Il y a beaucoup à découvrir à l'intérieur. J'aime vraiment le fait de pouvoir l'explorer constamment.
Et comment s'est passée la collaboration avec Simon Rattle?
It was really, really amazing to work.
C'était vraiment exceptionnel de pouvoir collaborer avec lui. C'est un musicien créatif et très encourageant. Pour un jeune musicien comme moi, travailler avec un tel chef aurait pu paraître intimidant. Mais il a été si gentil et stimulant que ça a été tout le contraire. Il était toujours ouvert à mes idées et en avait lui-même beaucoup. Je me suis senti très libre.
Thank you. Alors votre album chez Cook & Mason, au programme duquel figure ce concerto pour violoncelle d'Elgar, réunit différentes pièces et s'ouvre notamment avec un air traditionnel anglais, Blow the Wind Southerly, que vous jouez seul au violoncelle, une page particulièrement touchante. Pourquoi avez-vous choisi d'ouvrir cet album avec cette pièce et comment avez-vous conçu le programme, toutes ces œuvres qui entourent ce concerto d'Elgar?
Yeah, I wanted to build a program around that.
Autour de ce concerto d'Elgar, je voulais construire un programme d'œuvres qui pourrait entrer en résonance avec lui. Cette première pièce, tout comme le concerto d'Elgar, est une œuvre très intime, mais d'une manière différente, puisqu'il s'agit d'une œuvre pour violoncelle seule. On peut vraiment y entendre les différentes couleurs que prend le son de l'instrument seul. J'ai aussi sélectionné d'autres pièces d'Elgar, d'autres pièces du répertoire folklorique anglais, ainsi que d'autres œuvres composées à la même époque, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale. Je me suis beaucoup inspiré des enregistrements de ces instrumentistes des années 1920, 30 et 40. C'est en les écoutant que j'ai découvert beaucoup des morceaux présents dans mon album. Ils m'inspirent encore aujourd'hui.
Et d'ailleurs, cette chanson traditionnelle, Blow the Wind Southerly, vous l'avez découverte dans l'interprétation de Kathleen Ferrier.
Yeah, definitely.
Oui, exactement. Ce qui m'a le plus frappé en l'écoutant chanter a été cette ligne de voix solo, sans accompagnement, qui donne l'impression d'en être tout proche. Il y a tellement de couleurs lorsqu'elle chante, j'ai pensé qu'un violoncelle pouvait faire la même chose.
Alors dans cet album, chez Cook & Mason, finalement, vous associez, comme dans le précédent, des pages du grand répertoire classique avec des pièces empruntées au répertoire traditionnel ou folklorique. Est-ce naturel et important pour vous, justement, d'abolir ces frontières entre les genres musicaux ?
Yeah, I suppose I just enjoy.
Oui, j'aime la belle musique. Rien qu'en musique classique, il existe un éventail étonnant de chefs-d'œuvre qui ne se ressemblent pas selon les époques. Il existe aussi de très belles œuvres différentes dans d'autres genres. J'aime pouvoir explorer n'importe quelle belle musique que je découvre. Je me sens chanceux d'être en position de pouvoir jouer ce qui me plaît.
Alors, chez Cook & Mason, vous n'avez que 20 ans, mais vous êtes déjà particulièrement populaire, connu même à travers le monde. Alors, il y a eu ce fameux mariage royal auquel vous avez participé, le mariage du prince Harry et de Meghan, qui a été vu par 2 ou 3 milliards de spectateurs, téléspectateurs à travers le monde. Vous avez été nommé également au mois de janvier membre de l'Empire britannique. Vous êtes un musicien, un jeune musicien acclamé, sollicité. Comment vivez-vous si tôt avec cette popularité? Comment avez-vous envie de l'utiliser? Vous semblez très impliqué dans des organisations caritatives. On a l'impression que vous avez envie de vous mettre aujourd'hui déjà au service des autres.
Yeah, I think it's. I feel very, very.
Je me sens très chanceux d'avoir eu tant d'opportunités, d'avoir pu grandir avec des professeurs de musique exceptionnels dès mon plus jeune âge, et d'être allé voir tant de magnifiques concerts. Tout cela m'a permis de devenir le musicien que je suis aujourd'hui. Je veux maintenant utiliser cette position pour tenter de transmettre mon amour pour cette musique au plus grand nombre. D'offrir à chacun la possibilité d'écouter de la grande musique, de prendre des cours. Ce sont des sujets sur lesquels je me sentirai toujours concerné.
Il y a beaucoup à faire justement en Grande-Bretagne pour rendre la musique accessible à tous.
Definitely.
Oui, il y a beaucoup à faire. La musique telle qu'elle est enseignée n'est pas une priorité dans notre système d'éducation. Et je pense que cela doit changer. Personnellement, je suis convaincu des nombreux bienfaits de la musique. Le premier d'entre eux étant le plaisir que l'on en retire. Mais il y a bien sûr toutes les compétences que l'on développe en apprenant à jouer d'un instrument. Savoir écouter, beaucoup travailler, se concentrer, mais aussi combiner émotion et habileté physique. La musique est à même de donner cette confiance en soi et en sa capacité de s'exprimer, si nécessaire, à tout enfant qui se construit. C'est une chose merveilleuse.
Alors, on vous sent très tourné vers les autres chez Cook & Mason et très proche de votre famille. On connaît déjà votre sœur, Isata, avec laquelle vous avez joué en concert, avec laquelle vous jouerez le 23 février en concert à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. On a pu découvrir d'ailleurs un album en solo d'Isata Cook & Mason tout récemment. Il y a votre frère qui participe à cet enregistrement. La famille est essentielle pour vous. C'est un socle indispensable pour votre épanouissement.
I really enjoyed growing up at home where music was kind of all around the house and we all.
J'ai toujours adoré pouvoir grandir dans une maison emplie de musique et de personnes avec qui partager cette passion. C'est très précieux de pouvoir jouer de la musique avec ses frères et sœurs ou avec n'importe quelle personne que l'on connaît bien. C'est un véritable sentiment de plaisir. J'espère que je le ferai toujours.
Merci infiniment chez Cook & Mason d'être passé nous voir. Donc je rappelle la sortie toute récente de votre nouvel album, le concerto pour violoncelle d'Elgar, que vous avez enregistré avec l'Orchestre symphonique de Londres et Simon Rattle, entouré de tout un programme de pièces passionnantes. Merci infiniment. Thank you so much.
Thank you. Thanks very much.
Dans une page de Frank Bridge, Spring Song, une mélodie arrangée pour violoncelle qu'on écoutait ici chez Cook & Mason avec le Hills Quartet. Un nouvel extrait de cet album, construit donc autour du concerto d'Elgar, qui vient de paraître chez Decca. Chez Cook & Mason sera en concert le 23 février au Théâtre des Champs-Élysées avec sa sœur, la pianiste Isata Cook & Mason. Ensemble, ils joueront Beethoven, Lutoslavski, Barber et Rachmaninov.
Nouvelle génération de Thierry Ilerito avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, vous nous parlez d'un jeune contrebassoniste français.
Eh oui, Gérald Poretti. Il n'a que 28 ans, mais il est depuis 3 ans déjà le nouveau contrebasson solo de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Un poste très convoité, non seulement parce que la phalange est l'une des rares à faire à la fois du symphonique et de l'opéra, et elle a en plus la chance d'être attachée à une très belle maison d'opéra. Ensuite, et surtout parce que l'Alsace est, on le sait, une région très réputée pour les vents. Vous l'aurez compris, je ne parle pas de la tempête Chara qui a balayé le Nord-Est hier, mais de ces orchestres d'harmonie qui ont fait et font toujours une bonne partie de la vie musicale et culturelle dans cette partie de la France, fédérant de nombreux praticiens amateurs.
Une tradition musicale qui n'est pas d'ailleurs étrangère à la vocation de notre jeune soliste.
En effet, son père, Patrick Poretti, est un chef d'harmonie bien connu des habitants de la région, fils de tubiste, neveu de tromboniste, et a lui-même enseigné le tuba à l'école de musique de Colmar, avant de fonder l'harmonie de la ville de Turckheim, avec laquelle il a remporté de nombreux prix. Alors Gérard l'avoue, impossible pour lui de ne pas être porté sur les vents. Le coup de foudre pour le basson, eh bien c'est à 9 ans qu'il l'a, grâce à Guillaume Bidard, celui qui deviendra quelques années plus tard le basson solo de l'orchestre symphonique de Mulhouse, joue alors dans l'harmonie de son papa. Il lui fait découvrir son instrument. Immédiatement, Gérald se prend de fascination pour ce timbre grave. J'ai toujours ressenti une certaine attraction envers les graves, explique-t-il aujourd'hui, de sa voix flûtée, traversée d'harmoniques très aiguës. Preuve, s'il en fallait, qu'en musique aussi, les contraires s'attirent. C'est le début d'une ascension rapide. Après quelques années de piano à l'école de musique de son village, Gérald entre dans la classe de basson d'Alain Delrance au conservatoire de Colmar, ignorant alors que ce dernier deviendrait 20 ans plus tard son collègue à l'orchestre de Strasbourg. À 15 ans, Gérald remporte le concours national des jeunes bassonistes, une compétition organisée depuis 19 ans déjà par l'association Jeunes Vents Bassons. L'occasion de saluer tient le travail essentiel de ces associations qui permettent aux instruments moins connus de l'orchestre de se faire entendre et à leurs jeunes praticiens de se faire connaître un peu mieux du grand public. Après avoir obtenu son DEM à 16 ans, Gérald rejoint le pôle supérieur du CNSM de Paris. Pendant ses années parisiennes, eh bien on le verra participer entre autres au spectacle du collectif contemporain Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal. Et puis, il y a 5 ans, il se présente à un premier concours de recrutement organisé par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg pour un poste de basson. Il n'est pas pris tout de suite, mais dans l'intervalle, une place se libère en contrebasson. Alors après quelques années en CDD, il y a 3 ans, il passe le concours et l'obtient, devenant ainsi officiellement le nouveau contrebassoniste solo de l'orchestre.
Mais joue-t-il exclusivement du contrebasson ?
Ben non, bien sûr, même si ça reste son instrument principal, mais le contrebasson ayant surtout pris son essor dans les orchestres modernes à partir de la seconde moitié du 19e siècle, il se partage entre le contre et les postes de 3e, voire de 4e basson, comme chez Berlioz, par exemple. Il a d'ailleurs participé en tant que 4e basson aux magnifiques enregistrements des Troyens et de la Damnation de Faust sous la baguette de John Nelson. Mais Gérald Poretti l'affirme, le répertoire de l'orchestre réserve de très beaux moments pour l'instrument. Parmi ses souvenirs les plus forts figure d'ailleurs la Salomé de Strauss, montée en 2017 dans une mise en scène d'Olivier Py, partition qui réserve un très beau solo de contrebasson à la fin du 3e acte, ou encore Ma mère loi, un concert dessiné sur le sable. Ravel fait aussi partie de ces compositeurs qui ont beaucoup mis en valeur l'instrument. De beaux cadeaux pour le jeune musicien qui venait d'être enrôlé à l'orchestre. Parmi les prochains programmes auxquels il participe, eh bien tenez, une bonne idée de cadeau pour la Saint-Valentin, cette fois Histoire d'amour, les 13 et 14 février, deux concerts avec au programme rien moins que la 5e de Mahler et le prélude des morts d'Isolde de Wagner. Wagner, dont l'orchestre vient de donner Parsifal, il le reprendra à la filature de Mulhouse, ce sera les 21 et 23 février.
Regarde ces enfants, à ces femmes, priant au pied de cette croix.
Et que porte à la fois?
Un petit extrait de la terrifiante course à l'abîme de la Damnation de Faust de Berlioz par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par John Nelson, avec donc au sein de l'orchestre, au pupitre de basson, Gérald Poretti, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine, Thierry. Merci beaucoup.
Merci, Laure.
On vous retrouve bien entendu à la semaine prochaine. Merci à Bertrand Dorini qui réalisait cette émission. Et demain, une émission spéciale en compagnie de Simon Rattle qui viendra nous parler de sa nouvelle résidence à Aix-en-Provence avec l'Orchestre Symphonique de Londres, de son amitié avec la France et du Brexit qui l'agace profondément. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en compagnie de Francis Drezel.